Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Antoine Cavallero.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi, une demi-heure d'infos avec à la une les départs en vacances. Nous sommes dans un camping vendéen, ceux qui font leurs valises, ceux qui arrivent, le coffre rempli et sur les routes. Justement, vous êtes très nombreux, le pic des bouchons atteint, Pierre Collard.
780 km de bouchons cumulés en ce moment, les principales difficultés, on s'y attendait, c'est dans la vallée du Rhône.
Dans l'actualité également, le soulagement en Gironde, les flammes n'avancent plus et surtout, les évacués peuvent enfin retrouver leur maison. En tout cas, ils sont des centaines. Vive émotion ce matin à Douvres, dans l'Ain, le village toujours sous le choc après le drame absolu cette semaine, quintuple meurtre au sein d'une même famille. 200 personnes participaient à une marche blanche. La fin de la redevance audiovisuelle votée ce matin par les députés. Nouvelle mesure en faveur du pouvoir d'achat. L'idylle se poursuit entre la majorité et les républicains. À suivre également dans RTL Midi le Tour de France, le contre-la-montre dans le Lot. Premier départ de l'Acapelle Marival après 13h. Nous y serons. Jean-François Clairvoy, notre spationaute français, vous explique pourquoi les Américains visent à nouveau l'objectif Lune. Votre recette estivale et gourmande, Pierre Herbulot, nous propose aujourd'hui une salade de fraises revisitée. Un dessert frais, de saison, Valérie Quintin, surtout en ces périodes de forte chaleur. 13 départements, toujours en vigilance orange canicule.
Oui, de la Haute-Savoie jusqu'à la Méditerranée, c'est vrai que les températures seront encore très très élevées cet après-midi et surtout elles ne baissent pas et elles ne baisseront pas la nuit prochaine. Alors sinon, j'espérais un petit peu de pluie et un ciel chargé dans l'Est. Bon, pour être honnête, c'est un petit peu raté. Au mieux, on peut espérer une petite averse entre l'Alsace et les Alpes dans le courant de l'après-midi et en soirée. Ailleurs, le soleil s'impose assez largement. On a un petit paquet de grisailles entre la Normandie, l'Île-de-France et la Bourgogne qui devrait se dissiper au fil des heures. Côté Mercure, 24 degrés attendus à Biarritz aujourd'hui, 27 à Paris, 28 à Rennes, 30 degrés à Bordeaux, 32 degrés à Lyon et donc 34 à Marseille et même 37 degrés à Nîmes et à Avignon.
C'est bien noté. Merci, Valérie. Et on file donc au camping La Prairie, c'est à Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Depuis ce matin, c'est le chassé-croisé entre ceux qui partent et ceux qui arrivent. Mathieu Lopineau, plus que jamais, le personnel est sur le pont.
Ouais, dès 7h ce matin, Emma, 18 ans, son premier job saisonnier, s'active pour ouvrir son dépôt de pain.
Après là, je vais en faire un peu plus vu que les vacanciers vont arriver, ils vont avoir besoin de pain. C'est une bonne ambiance, les vacanciers sont super agréables. On prend souvent des fois le numéro des vacanciers qui partent pour demander s'ils sont bien rentrés, etc. Donc c'est chouette.
Valentin, lui aussi, est sur le pont, mais plutôt sur l'entretien du camping.
Bonne journée, comme les emplacements sont libérés, il faut vite les préparer pour les suivants, que ça soit nickel.
Bonjour.
Al samedi, les états des lieux d'entrée et de sortie s'enchaînent ici au camping La Prairie. Et c'est Nicolas, le patron, qui s'en charge.
On passe pièce par pièce, surtout pour vérifier si les gens n'ont pas oublié quelque chose. Il peut y avoir un verre fêlé, une petite bricole, mais voilà. En général, il n'y a aucun souci, tout est nickel.
Et dès là, on va bientôt partir.
Après une semaine de vacances, pour Raphaël, Sandrine et leur fille venue des Hautes-Alpes, eh bien, c'est l'heure du départ.
Ce matin, on va lever tôt.
Puis un peu de ménage, quoi. Après, il y a la route.
On s'est régalé. Donc, on a été faire une balade en canoë, du mini-golf avec la puce, des balades, c'est chouette.
Globalement, un bon mois de juillet en termes de fréquentation ici en Vendée. La crise du Covid est derrière nous et certaines réservations de dernière minute de vacanciers qui devaient aller dans le sud-ouest, mais ils se rabattent donc ici en Vendée à cause des incendies.
Alors, vous êtes une bonne route.
Et cet après-midi, ce sont les arrivées qu'il faudra accueillir.
Mathieu Lopineau, camping de Saint-Jean-de-Mont depuis tôt ce matin pour RTL. Merci à vous. Les campings qui se remplissent, les touristes débarquent. Attention aux embouteillages sur les routes. Journée classée rouge pour toute la France et même noire en Auvergne-Rhône-Alpes, Pierre Collat, ça coince hein, dans la vallée du Rhône.
Oui, je vais vous donner un chiffre, Antoine, qui résume bien la situation. 4 heures, c'est le temps minimum qu'il faut en ce moment pour descendre l'autoroute A7 entre Lyon-Sud et Orange. Normalement, c'est moins d'une heure et demie, faites le calcul, vous perdez 2h30 dans une succession de ralentissements. Dans l'autre sens, il y a du monde aussi, il faut compter une heure de plus entre Orange et Valence dans la remontée de la vallée du Rhône. Sur la façade ouest, 25 minutes de ralentissement après le péage de Virsac en arrivant à Bordeaux. C'est pour vous qui nous écoutez sur la 10. Dans le sud-ouest, sur la 61, vous perdez une heure en direction de Toulouse depuis Carcassonne à cause d'un poids lourd accidenté sur la voie de droite. C'est au kilomètre 281, juste avant Castelnau-d'Arry. Une bonne nouvelle tout de même, les temps de parcours sont globalement en train de diminuer. C'est l'heure de la pause déjeuner.
Merci Pierre. Prochain point à 13h du monde sur les routes ce samedi. Et les gares ne sont pas en reste. Là aussi, on se bouscule. Nouveau week-end très chargé dans les trains. Et le programme l'âme de ces voyageurs, lui aussi est bien rempli des voyageurs rencontrés. Gare de Lyon par Mathilde Pires.
On va à Juan-les-Pins, une petite semaine à la mer, et après chez les beaux-parents à Gap. Ça va être plage surtout.
Mais jouer avec mes jouets.
T'as pris quoi comme jouet?
Des peluches, mon Spider-Man jouet, mon gant Spider-Man et mon masque Miraculous.
Je pars à Cannes maintenant dans 10 minutes à peu près. J'y reste 2 semaines avec des amis. Alors le programme, ça va être, je pense, plage, boîte de nuit, enfin tout ce qui est pour s'amuser, pour pouvoir en profiter avec les 2 ans du Covid. Donc du coup, là, cette année, on se lâche, voilà.
Vous partez où?
À Morzine, en Haute-Savoie. Des randos, du manège, profiter de la montagne.
Je vais faire ma liste d'été, la piscine.
C'est ton doudou?
Picou.
Picou, le doudou qui va prendre le train. À tous ces voyageurs au micro, RTL de Mathilde Pires. RTL, midi 36. Ils peuvent enfin rentrer chez eux. 10 jours après le début des terribles incendies de Gironde. 37 000 personnes évacuées au total. 16 000 d'entre elles ont pu regagner leur domicile depuis hier, comme ces habitants de Cazaux, commune de la Teste de Buch. Juliette Chénion, vous avez pu suivre Boris, soulagé de retrouver sa maison ce matin.
Oui, barrage levé à 9h ce matin. Boris est venu tout de suite. Après 10 jours chez des amis, il retrouve enfin son appartement.
Il n'y a pas de dégâts, donc je suis chanceux.
Quelles sont les premières choses que vous avez faites là en arrivant?
Aérer la maison, parce que la bonne odeur de barbecue depuis une dizaine de jours, voilà, c'est assez présent. Vérifier que tout fonctionne, au moins le congélo. Il fallait laisser couler l'eau un petit peu pour évacuer l'eau qui est dans les tuyaux. Et...
Claude, vous avez fait un petit coup de vaisselle?
Oui, bah parce que quand on part précipitamment, en fait, on ne pense pas à faire la vaisselle. Donc au retour, il était temps, au bout de 10 jours avec la chaleur, ça en avait besoin.
Dans le village, les commerces étaient encore fermés ce matin. Quelques policiers pour assurer la sécurité. Le maire aussi venu accueillir les premiers revenants, des habitants soulagés tout simplement.
Ah bah c'est clair, ça, on a été évacués il y a 10 jours maintenant. Chaque jour, le stress de dire quand est-ce qu'on va rentrer. Quand la nouvelle est tombée hier, c'était quand même une très bonne nouvelle. Encore merci aux pompiers, merci à tout le monde pour tout ce qu'ils ont fait.
Boris, grand sourire, détendu. Aujourd'hui est vraiment une bonne journée pour lui. La maison va bien et il part maintenant en vacances avec sa famille.
Merci Juliette Chénion près du bassin d'Arcachon pour RTL. Nouvelle rassurante également dans le Minervois entre l'Hérault et l'Aude. L'incendie là-bas est fixé selon les pompiers. Les pompiers qui restent tout de même immobilisés. Déclaré hier, le feu a détruit 150 hectares de végétation. Dans un instant, l'émotion dans le petit village de Douvres dans l'Ain, 3 jours après la terrible tuerie familiale. Une marche blanche ce matin, nous y sommes juste après ça.
RTL Midi
avec Antoine Cavallero.
RTL Midi
avec Antoine Cavallero.
Midi 40, l'émotion aujourd'hui à Douvres, le petit village paisible de l'Ain, encore sous le choc, 3 jours après cette tuerie d'une rare violence. Un jeune homme de 22 ans qui a tué 5 membres de sa famille, recomposé puis abattu dans l'assaut mené par le GIGN. Ce matin, Bertrand Frachon, 200 personnes se sont rassemblées en hommage aux victimes Marche Blanche.
Oui, beaucoup d'émotions dans ce petit village ce matin. La marche blanche est partie de la mairie pour rejoindre les lieux du drame. Quelques centaines de mètres plus loin, des fleurs et des ballons gonflables ont été déposés sur les lieux. Jocelyne n'habite pas sur place, mais elle a fait spécialement le déplacement.
Moi je ne suis pas d'ici, mais bon, je suis une maman, donc je me dis que ça m'arriverait à moi. Donc je compatis beaucoup. Parce que je pense à ses parents, ses deux jeunes filles, ce petit ange de 5 ans, et puis aussi à ce garçon qui, malheureusement, avait sûrement des problèmes psychiatriques. Hélas.
Un long moment de recueillement en silence, pas de discours, et les participants quittent les lieux discrètement.
C'est vraiment un drame absolu et tout le village est sous le choc. Donc c'était pour témoigner notre émotion et on ne peut pas faire grand-chose d'autre.
Ce petit village d'un millier d'habitants restera sans doute marqué longtemps par ce drame.
Bertrand Frachon à Douvres dans l'Ain pour RTL. Dans l'affaire de la fusillade à Paris, lundi soir, un homme abattu à la terrasse d'un bar à Chicha, 4 autres blessés. L'adolescent de 16 ans arrêté, il a été mis en examen hier soir, placé en détention. Son complice, lui, se trouve toujours en fuite. La politique, le marathon se poursuit à l'Assemblée. Les députés toujours mobilisés sur les mesures de pouvoir d'achat. Après le rachat des RTT par les employeurs rendus possibles, après les revalorisations des pensions et des allocations sociales, ce matin, William Galibert, les élus ont voté la suppression de la redevance audiovisuelle. Oui, ça représente 138 euros pour les foyers qu'il a payés, presque 4 milliards d'euros au total. Et c'est de l'argent qui sera maintenant récupéré sur des recettes de TVA. C'était aussi une promesse bien mise en avant pendant la campagne d'Emmanuel Macron, qui avait l'avantage de ne pas déplaire à la droite. Les députés, les Républicains, ont voté pour cette suppression. Et d'ailleurs, c'est simple, on a l'impression d'avoir ressorti du placard le programme de Valérie Pécresse. La droite voulait plus d'heures supplémentaires défiscalisées. Le gouvernement a dit oui. La droite voulait que les salariés puissent se faire payer leur RTT. Le gouvernement a encore dit oui. Le ministre Bruno Le Maire a remercié Bichonnet, les Républicains, bien comme il faut. Il a besoin d'alliés pour faire passer le texte. Prochaine concession, la ristourne de 18 centimes sur le litre d'essence devrait bientôt être prolongée et augmentée. Et là aussi, c'était une idée de la droite.
William Galibert du service politique de RTL. On rappelle aussi ces deux coups de pouce annoncés par deux géants accusés d'engranger des super profits. Total, qui promet une ristourne de 20 centimes par litre dès le mois de septembre. De son côté, la CMA-CGM, la compagnie de transport maritime, va baisser ses tarifs. À l'étranger, au lendemain de l'accord entre Kiev et Moscou sur l'export des céréales ukrainiennes, des frappes russes ont visé ces dernières heures le port d'Odessa, l'un des principaux sur la mer Noire. L'Ukraine accuse Vladimir Poutine d'avoir craché au visage de l'ONU et de la Turquie qui ont mené les négociations. Kiev assure que Moscou devra assumer l'entière responsabilité en cas d'échec de l'accord. Le sport, la Formule 1, la grande fête ce week-end au Castellet dans le Var. Plus de 200 000 personnes dans les gradins pour ce Grand Prix de France. Frédéric Veil, bonjour.
Bonjour Antoine.
Vous êtes sur place pour RTL sous un soleil de plomb, c'est la folie depuis ce matin.
Oui, oui, véritable folie, car les spectateurs sont au rendez-vous et les tribunes se garnissent pour les derniers essais libres qui vont se dérouler d'ici quelques minutes, mais surtout pour la séance de qualification programmée à 16h. C'est évidemment elle qui va déterminer la grille de départ du Grand Prix qui se disputera demain. On attend évidemment beaucoup nos deux Français, Pierre Gasly et Esteban Ocon, qui tous deux ont leur tribune dédiée ici sur le circuit Paul Ricard. Tous deux sont très sollicités par les fans. Séance de selfies, d'autographes, il ne peut pas faire 2 mètres sans être accosté. Que dire des stars de la discipline. Ce matin, Lewis Hamilton, Max Verstappen, Charles Leclerc et Fernando Alonso sont passés par la fan zone. Je peux vous dire que le garde du corps de Lewis Hamilton n'a pas chômé quand les fans se sont rués sur le septuple champion du monde. Bref, chaude ambiance ici au Castellet. Pour ceux qui veulent se rafraîchir, des plages, des piscines ont même été installées dans 2 virages du circuit avec vue imprenable, les pieds dans l'eau. Cette année, le Grand Prix de France a mis les bouchées doubles pour convaincre le promoteur de la F1.
Ouais, folle ambiance, d'autant plus que c'est sans doute la dernière fois que le circuit Paul Ricard accueille ce Grand Prix de France.
Oui, c'est la rumeur qui est de plus en plus persistante. Le Grand Prix de France, comme celui de Belgique ou de Monaco, pourrait disparaître du calendrier l'année prochaine au profit de pays qui vont mettre un plus gros chèque sur la table pour obtenir le Graal. Rien n'est encore décidé, des discussions sont toujours en cours. On devrait connaître la réponse dans les prochaines semaines en croisant bien évidemment les doigts pour qu'il y ait un 71e Grand Prix de France l'an prochain.
Frédéric Veil depuis le Castellet dans le Var pour ce Grand Prix de France. Merci à vous. Dans 20 minutes, on suivra le départ de la 20e étape du Tour de France, le contre-la-montre avec l'arrivée dans le merveilleux, magnifique village de Rocamadour. Et puis ce soir à 21h, tous derrière nos bleus. Et oui, les Françaises qui affrontent les Pays-Bas. Quart de finale de l'Euro de foot féminin. Le quart de finale qui souvent leur porte malchance. On espère que ce soir, ça va passer. Dans un instant, on vous explique comment les Américains comptent repartir à la conquête de la Lune. Première mission sans astronaute prévue à la fin août. Jean-François Clairvoy est notre invité. Ce sera juste après la publicité.
RTL Midi
avec Antoine Cavallero.
RTL Midi
avec Antoine Cavallero.
RTL Midi 47, les Américains repartent à la conquête de la Lune. Cette semaine, on a enfin, après la date de lancement, la première mission Artemis 1 décollera le 29 août prochain ou quelques jours plus tard. Comme toujours, les décollages spatiaux peuvent être décalés en raison de la météo. Avec nous, l'un de nos plus grands spationautes, Jean-François Clairvoy, bonjour.
Bonjour.
Alors ça y est, ça se concrétise. Le retour de la NASA dans le giron de la Lune, cette première mission, ce sera un vol non habité d'une quarantaine de jours, personne dans la capsule. À quoi elle sert cette première mission? En quoi ça consiste?
Oh, c'est simplement une mission qui valide tous les systèmes, la trajectoire, les opérations que l'on veut effectuer le vol suivant avec des astronautes à bord. Donc on fait d'abord un vol sans astronautes, mais c'est le même véhicule. Il y a déjà à bord le système de support vie complet et la trajectoire qui va aller assez loin puisqu'elle va s'éloigner derrière la Lune jusqu'à 70 000 km et après il va revenir. Donc voilà, valider tout ce qu'on fera la fois suivante avec des hommes à bord.
C'est ça,
des
oui.
Des hommes donc... et des femmes.
Artemis 2 qui est programmé pour 2024. Première mission avec des astronautes à bord, hein, mais sans alunissage. Elle se contentera de tourner autour de la Lune. Et enfin, Artemis 3 qui est prévu pour l'horizon 2025-2026. La dernière mission, Jean-François Clairvoy, sur la Lune, c'était il y a 50 ans, Apollo 17 en 1972. À quoi ça sert de retourner sur la Lune ? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces missions ?
Alors, à l'époque des missions Apollo, c'était vraiment une course. Il s'agissait d'être les premiers. Au passage, les astronautes ont amené quelques expériences scientifiques, mais les scientifiques sont restés sur leur faim parce qu'il y a des tas de choses à faire intéressantes sur la Lune qu'on n'avait pas eu le temps de faire à l'époque. Et puis, le lancement du programme Navette avait coupé les budgets des vols suivants lunaires. Donc là, il s'agit de retourner sur la Lune pour y rester plus longtemps en orbite et aussi plus longtemps à la surface, notamment près du pôle Sud, où il y a des choses intéressantes à trouver dans le sol, notamment pour alimenter les systèmes de support vie. On espère trouver sur place assez d'eau pour produire de l'oxygène pour respirer, peut-être du carburant pour décoller plus tard dans des missions futures qui iront encore plus loin et à la face cachée de la Lune.
C'est quoi la prochaine étape, Jean-François Clairvoy ? C'est Mars ?
Alors, la prochaine étape après ce vol, donc on a parlé du vol habité autour de la Lune, puis dans la deuxième partie de cette décennie, des vols autour de la Lune incluant des atterrissages à la surface. Alors je rappelle que comme l'Europe, l'Agence spatiale européenne, contribue à la fabrication, à la conception du vaisseau Orion. Le vaisseau Orion, c'est le vaisseau habitable que transporte la fusée SLS. Et on a droit à 3 sièges d'ici 2030. Il y a 3 sièges à bord de plusieurs missions respectives pour des astronautes européens. Il sert à préparer aussi ce vol, à qualifier le vaisseau Orion pour des voyages interplanétaires plus lointains. Et si, peut-être que avant 2040, on aura le premier voyage habité vers Mars. Je ne pense pas qu'il inclura la descente à la surface parce que c'est très compliqué de rajouter cette étape de plus. Donc la première mission habitée vers Mars, dans une quinzaine d'années au mieux, inclura juste des vols en orbite, depuis laquelle les astronautes pourront télécommander de façon très rapide et très efficace, beaucoup plus efficace que depuis la Terre, des robots à la surface. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des astronautes dans la station spatiale testent des concepts de télécommande de robots de surface terrestre pour répéter ce qu'on fera un jour en orbite martienne. Et peut-être avant 2050, si tout va bien, si on est assez sage, qu'on réussit bien tous les vols d'essai, on connaîtra les premiers humains à la surface de Mars.
Oui, mais tout ça, c'est un coût, pardonnez-moi, mais exorbitant. Artemis, c'est au moins, au bas mot, 25 milliards de dollars. Et on sait que les budgets ont tendance à grossir au fil du temps, au fil des années. Est-ce qu'on a raison de mettre autant d'argent pour cette conquête spatiale, cette conquête de la Lune, cette conquête possible de Mars ?
Alors, il faut regarder que ces budgets sont en fait très étalé dans le temps et réparti entre plusieurs partenaires parce que le programme Artemis aura comme destination principale l'orbite lunaire, pas la surface. Parce qu'on va, à partir de 2024-2025, commencer à assembler la future station internationale avec les partenaires traditionnels japonais, canadiens, européens autour de la Lune. Donc la prochaine étape, à part la qualification d'Orion et de sa fusée SLS, c'est de fabriquer une station spatiale internationale autour de la Lune, qu'on appelle le portail, le gateway en anglais, et qui sera la destination principale des vols habités lunaires, dont seulement quelques-uns incluront des descentes à la surface. Alors, quand vous répartissez dans le temps et entre plusieurs pays, en fait, ça revient à des budgets qui sont très raisonnables. En France, on dépense environ 1,2 euros par habitant par an dans notre contribution au programme vol habité qui inclut l'ISS et les programmes Artemis. Donc vous voyez, ça reste très raisonnable. Et pour les Américains, le budget du programme Artemis, il reste du même ordre de grandeur que le budget qui était alloué chaque année au programme navette spatiale américaine. C'est pour ça que les vols seront rares. Il y aura un vol tous les 2 ans, au mieux un par an. Alors qu'à l'époque de la navette spatiale, c'était 6 à 8 vols par an. Donc voilà, les missions seront rares. Donc elles seront bien préparées, elles seront en coopération internationale pour répartir l'investissement de ces missions sur plusieurs pays et sur plusieurs décennies.
On retiendra donc ce chiffre 1,20€ par an et par Français pour la recherche spatiale pour les vols habités. Merci, merci Jean-François Clairvoy, astronaute, 3 missions spatiales à votre actif. Merci d'être venu dans RTL Midi pour nous aider à mieux comprendre ces missions Artemis, le retour des Américains sur la Lune, premier décollage donc prévu le 29 août prochain. Une pause et dans un instant, votre recette du jour, une salade de fraises version 3 étoiles. À tout de suite.
RTL Midi
avec Antoine Cavallero. RTL Midi,
Antoine Cavallero.
Et comme chaque midi, comme chaque samedi à midi 55 plutôt, au moment où vous êtes peut-être à table, une idée recette, ce sera pour ce soir, pour demain, vous avez tout l'été. Et c'est avec vous, Pierre Herbulot, bonjour.
Bonjour Antoine.
Une recette estivale de grand chef, facile à refaire à la maison, c'est votre promesse.
Oui, et un dessert à la fraise aujourd'hui, on va se faire une espèce de petite salade avec un peu de fromage frais, un sirop de fraise et des amandes à la
fois. C'est estival.
Rafraîchissant et gourmand, voilà, c'est ce que j'allais dire. Cette recette, je suis allé la chercher dans la Drôme, à Grignan. Elle est signée du pâtissier du Clair de la Plume, Cédric Perret.
On la découvre tout de suite avec votre reportage.
Bonjour Cédric Perret.
Bonjour.
Bah, je vous suis, par quoi on commence ?
Alors tout simplement, déjà, on commence par confectionner le sirop.
Ouais.
On fait un sirop avec donc de l'eau, du sucre, bien évidemment, un petit peu de menthe, un tout petit peu de peau de citron jaune, mais que le jaune. Des graines de coriandre, il y a une pointe de cardamome, et puis on y met le thym, et ça on porte à ébullition. 5 minutes, et on filtre.
C'est très très parfumé, quoi. Il y a presque un côté, j'allais dire vin chaud.
Il y a un côté un peu, on fait penser un peu vin chaud, je dirais harlequin, un petit peu comme les bonbons harlequin.
Très bien, donc on a notre petit sirop qu'on a réservé.
Une fois qu'il est bien froid, donc en fait, on prend tout simplement les fraises. Donc on sélectionne dans la barquette les fraises les moins esthétiques, on va dire, puisqu'on va venir les mixer avec ce sirop.
On veut quelque chose de très très lisse, ou alors il y aura encore un petit grain, on va la filtrer ou quoi ?
Non, on va pas la filtrer, on va garder justement toute la matière, tout le produit. Il y a une petite variation aussi au niveau des yeux. On voit bien, on voit la pulpe. Donc voilà, on a un jus qui est très mousseux. Sentir, on a la fraise et les épices qui reviennent.
Ah ouais, ça sent très bon.
Donc ça, on garde au frais. Il faut le servir bien froid.
Super.
Après, la deuxième étape, c'est on va faire une chantilly avec le fromage frais.
D'accord.
Et un peu d'huile d'olive et du sucre. Donc pareil, mixeur plongeur.
Ah, vous faites une chantilly au mixeur.
Parce que voilà, on veut pas, je veux pas une chantilly montée, je veux une crème un peu comme un fromage blanc détendu.
D'accord, ok.
Donc
pas
on
trop
vient
monté,
mixer
quoi.
Tous les éléments, ça va émulsionner l'huile, ça va bien incorporer le fromage frais qui a une texture, hein, c'est pas la faisselle. Hein.
Ouais.
Donc pareil, on mixe.
Ah oui, ça fait une crème épaisse là.
C'est ça. Et là, on arrête là.
Au frais.
Pour la suite, on a donc notre céleri. Donc le céleri, des fines branches, on fait tout simplement une fine brunoise.
Tout petit cube.
Nous avons de l'amande, donc de l'amande que nous avons torréfiée. Donc elles sont bien sèches et on va les couper dans la longueur en gardant des morceaux un peu plus gros, un peu plus fins. Il n'y a pas de...
On va jouer avec les textures, quoi.
C'est ça, ça va donner de la texture, ça va donner du croquant, du goût plus ou moins intense sur la partie où on est tombé. Un tout petit peu de menthe que l'on va tailler vraiment très très fin. On peut attaquer l'assemblage. Donc l'assemblage est simple, hein. Vous prenez une assiette de...
Plutôt une assiette creuse, hein.
Plutôt une assiette creuse parce qu'on va quand même avoir la crème et le jus. Les fraises un peu plus grosses, on va les couper en deux. On va les mettre au fond de l'assiette. Donc par-dessus, donc, nous allons rajouter discrètement nos petites céleri que nous avons taillées. 4-5 morceaux, ça suffit. Avec la menthe, les brisures d'amande. Et là, le plat, il est quasiment fini, puisqu'en fait, on va le finir à table. Où chacun va se mettre son coulis, son jus, sa crème à la cuillère et, pour la dégustation. Mais vraiment au dernier moment.
On y va, là, on goûte. Oh là là. C'est juste délicieux, chef, là.
C'est régressif. Effectivement, les fraises, ça croustille, ça craque un petit peu avec les... l'amande.
La menthe aussi apporte de la fraîcheur.
La menthe à fraîcheur. En fin de repas, on est bien.
C'est parfait. Mission accomplie. Merci beaucoup, merci. Cédric Perret. Donc, je rappelle, hein, du Clair de la Plume, on est à Grignan.
C'est ça, à Grignan.
Merci encore.
Et Pierre, je crois que vous avez un petit conseil.
Oui, la torréfaction. Le chef en parle, il dit on fait un peu torréfier les amandes, ça veut dire qu'il les a passées au four 20 minutes à peu près à 150 degrés. Il faut pas les brûler, hein, faut faire attention. Et ça, c'est pas grand-chose, mais ça fait vraiment toute la différence. Faites le test à la maison avec des noisettes, par exemple. Vous allez voir le parfum un peu grillé quand vous les sortez du four. Ça révèle les arômes des fruits secs, c'est incroyable. Et puis vous pouvez aussi les faire torréfier dans une poêle, éventuellement avec un petit peu de sucre, ça va caraméliser. Et là, vous allez obtenir des chouchous un peu comme à la plage. hyper gourmand.
Hyper appétissant, la recette d'une salade de fraises et le secret pour des chouchous gourmands. Merci Pierre Herbulot et bon appétit à toutes et tous.
Antoine Cavallero, RTL Midi.
RTL, il est 13h. Information à retenir, nouvelle mesure en faveur du pouvoir d'achat. Les députés votent la fin de la redevance audiovisuelle, 138 euros redonnés aux Français, promet le gouvernement. Les débats se poursuivent cet après-midi, voire demain, le marathon du pouvoir d'achat à l'Assemblée. Les flammes n'avancent plus en Gironde. Les pompiers restent mobilisés. Depuis hier, 16 000 personnes ont pu retrouver leur maison. Ce matin, c'était à Cazaux. Situation toujours compliquée au port de Douvres. Depuis hier, en plein week-end de départ en vacances, des embouteillages monstres avant la traversée de la Manche. Tout en reconnaissant que le Brexit n'arrange pas les choses, les Anglais nous accusent de ne pas déployer assez de gardes-frontières. Le préfet des Hauts-de-France évoque un incident technique pour les Britanniques coincés. C'est un enfer. Écoutez Alice, anglo-allemande, toujours bloquée.
J'ai quitté ma maison très tôt, à 5h du matin. Et depuis que je suis proche du port de Douvres, nous sommes bloqués, rien ne bouge. Il commence à faire vraiment chaud ici. Heureusement que j'avais une bouteille avec moi et je garde les fenêtres ouvertes. J'ai dû aller aux toilettes, mais il n'y en avait pas. Je suis allée sur le bord de l'autoroute devant tous les conducteurs de camions. C'était humiliant. Je ne sais pas combien de temps on va rester là. Ils disent au moins 6h d'attente, mais rien ne se passe. Je ne peux pas faire demi-tour non plus, c'est bloqué dans les deux directions. Ils n'ont pas réussi à rediriger les gens, tout est en arrêt. Ça va prendre des heures, peut-être 10 heures avant de bouger.
Propos recueillis par notre correspondante en Angleterre, Marie Boueda. Et ici, chez nous, ça coince toujours sur les routes. Et oui, bison futé, voie rouge pour toute la France, noir pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pierre Collat, les embouteillages qui continuent.
Vous perdez encore 2h à 2h20 dans la vallée du Rhône entre Vienne et Orange. Ça roule au ralenti, surtout entre Lyon et Valence. Après, ça va un peu mieux. Et puis pour vous qui roulez dans le sud, entre Carcassonne et Toulouse sur l'A61, un camion accidenté crée un gros ralentissement. C'est un petit peu avant Castelnaudary au kilomètre 281. Premier coup de frein après la sortie 22, Bram. La voie de droite vient de rouvrir. Bonne nouvelle, ça devrait aller mieux dans les minutes qui viennent.
Merci Pierre Collat.
RTL. Tour de France 2022.
Et puis évidemment le Tour de France, le contre-la-montre de la Capelle Marival à Rocamadour. Christian Olivier, le départ est imminent.
Oui, 40 km 700 pour les 139 rescapés du Tour. Premier coureur, Caleb Ewan, qu'on a peu vu et qu'on verra peut-être demain sur les Champs-Élysées, à prendre le départ à 13h05. Vingegaard, Pogacar et bien entendu Geraint Thomas conserveront leurs trois premières places au général, sauf accident très improbable. Godu devrait conserver sa quatrième place. Bardet devra batailler pour rester dans le top 10. Prochain rendez-vous RTL Tour de France à 13h30.
Et oui, on vous retrouve toutes les demi-heures, cher Christian Olivier, pour cette avant-dernière étape du Tour de France. Un mot de la météo, on le rappelle, hein, toujours 13 départements en vigilance orange canicule, le sud-est tout particulièrement concerné, de la Haute-Savoie à l'Hérault. Pour le reste du pays, du soleil également, quelques nuages dans la Manche, des averses attendues pour les Alpes. Les courses, le quintet à Enghien-les-Bains cet après-midi, les pronostics d'Alexandre de Kopman, le 3, le 6, le 11, le 2, le 4, le 7, le 14, le 9, sa dernière minute, c'est le 3 Formi. RTL, 13h03, tout de suite, entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch.